Il est 7h. Un très bon réveil à tous, un bon week-end, non, une belle semaine. Oh là 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 là, aujourd'hui c'est difficile. Belle matinée à tous.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
Bah non, c'est pas le week-end, mais c'est Xavier Bourgeau qui est là pour le journal.
Mais j'étais perturbé, Philippe, c'est tout ça. C'est pas je suis mal rasé, c'est ça. Salut Philippe, bonjour tout le monde. Alors, Champéry a reçu au début du mois le label Top Destination R2 Résidence Secondaire. La commune chablaisienne a été récompensée en compagnie des communes de Zermatt et de Stoss, dans le canton de Schwyz. Décernée par l'Alliance Résidence Secondaire Suisse, cette certification récompense depuis 2020 les lieux où les propriétaires d'un deuxième habitat peuvent prendre part à la vie locale. Si le label est prestigieux, chaque destination peut y prétendre. Martin Gigax, responsable pour la Suisse romande auprès de l'Alliance Résidence Secondaire Suisse.
Il faut simplement participer. Le label a été fait en deux parties. Une première partie, c'est un questionnaire envoyé au comité des organisations membres. C'est des éléments que le comité a jugé comme étant objectifs, c'est-à-dire est-ce que pour un appartement X, on paye Y, ça nous permet de comparer. Ou bien est-ce qu'on reçoit quelque chose en contrepartie et quoi ? La deuxième partie est un questionnaire beaucoup plus compliqué où les membres, cette fois, peuvent répondre à un questionnaire et dire entre 1 et 10 que le site, il est super. Les possibilités de sortie pour les jeunes, c'est peut-être assez moyen, etc., y compris sur l'organisation touristique.
Et cette certification devra en outre être renouvelée tous les 2 ans par l'Alliance afin de pouvoir être conservée par la commune qui compte plus de 60% de résidents secondaires. C'était un sujet signé Thierry Nicolet. Les habitués du domaine skiable Glacier 3000 au Diableret vont retrouver une vieille connaissance. La piste noire Pierre-Pointe, inaccessible aux skieurs depuis 1999, sera praticable à nouveau dès l'hiver prochain. Cette réouverture passe par le percement de la montagne cet été. Le directeur de Glacier 3000, Bernard Chanen, au micro de Guillaume Abbé.
Pour faire cela, on a besoin d'un tunnel qui traverse le rocher et on va sortir en dessous du rocher jaune, un tunnel de 265 mètres de long. Et il y aura un tapis où on peut skier sur ce tunnel à 14%. C'est comme de la neige, mais artificielle. Alors on va tranquillement glisser dans le tunnel, ça c'est le plan. On a aussi la possibilité de freiner, mais c'est tout droit. Et après, on a une nouvelle piste de 41 degrés, plus de 80%. Alors c'est vraiment une piste noire.
Pour mémoire, l'emblématique descente avait été fermée il y a plus de 20 ans lors de la modernisation des installations. Le chantier entraîne donc la fermeture cet été de la Via Ferrata Rocher Jaune, ainsi que la modification des tracés de randonnée. Les taxes de séjour que les touristes doivent payer dans les communes suisses continuent à présenter de grandes différences, selon une étude menée par Comparis. Cette contribution varie du simple à l'octuple. Cette taxe est presque 8 fois plus élevée à Montreux et ça se fait qu'à Zoug, où elle ne dépasse pas 90 centimes, selon un communiqué de Comparis. Le site ne constate pas de grandes différences avec les résultats obtenus lors de la précédente enquête menée l'an dernier. L'étude se base sur les 80 communes qui comptent le plus grand nombre de nuitées et elle totalise environ 85% du marché helvétique. Plus de la moitié des 60 000 réfugiés ukrainiens en Suisse sont hébergés chez des privés, mais le système commence à montrer ses limites. Les cantons et la Confédération doivent rapidement en parler, de même que du statut de protection S. Selon les estimations du secrétariat d'État aux migrations, entre 80 000 et 120 000 personnes venues d'Ukraine devraient être en Suisse d'ici la fin octobre. Certains cantons ne sont pas très sûrs que l'hébergement chez des privés soit une solution durable, au-delà de quelques mois. Et afin d'éviter que des familles ne soient relocalisées ou que des enfants doivent changer d'école, certains cantons se tournent vers leur propre structure, à savoir des appartements ou des structures collectives comme des EMS et des auberges de jeunesse. À l'étranger, la quasi-totalité de l'Espagne était en état d'alerte hier en raison de la vague de chaleur avec des températures dépassant les 45 degrés. Cette canicule qui a débuté le week-end dernier et devrait durer au moins jusqu'à dimanche se traduit par des températures suffocantes dans l'ensemble de la péninsule ibérique, notamment dans les régions espagnoles d'Andalousie, d'Estramadure et de Galice, placées en alerte rouge. Le parquet péruvien a annoncé hier la réouverture d'une enquête préliminaire pour trafic d'influence contre le président Pedro Castillo. Certaines nominations au sein des forces armées seraient entourées d'irrégularités. Cette enquête avait été suspendue en janvier par la procureure générale au motif que le président ne pouvait pas être inquiété pendant l'exercice de son mandat qui court jusqu'en 2026. Au pouvoir depuis un an, le président est soupçonné d'avoir exercé des pressions pour promouvoir des officiers militaires sympathisants de son gouvernement de gauche. On passe au sport et en football. Les Pays-Bas ont battu le Portugal dans le cadre de l'Euro féminin. Les Néerlandaises se sont imposées 3-2. Les Bataves menaient pourtant 2-0 après 16 minutes, mais les Portugaises ont su faire douter les championnes d'Europe jusqu'au bout. La dernière journée promet beaucoup dimanche avec Suisse-Pays-Bas et Suède-Portugal. Football toujours, mais cette fois-ci, on se déplace aux États-Unis. Après deux défaites contre San Jose et Columbus, Xherdan Shaqiri et Chicago ont renoué avec la victoire. Le Fire s'est imposé 2-0 à domicile face à Toronto, devant plus de 10 000 spectateurs. Chicago a forcé la décision sur deux ruptures conclues aux 4e et 16e minutes par John Duran. Remplacé à la 77e minute, Xherdan Shaqiri a livré une performance plutôt neutre. Le Ballois a traversé une 6e rencontre de rang sans trouver le chemin des filets. En VTT, le Summer Bike Marathon est de retour ce week-end à Châteaudet. Lancé l'an dernier, l'épreuve avait rencontré un réel succès. Cette première édition avait réuni quelques 450 participants. 12 mois plus tard, les organisateurs proposent donc un programme relativement similaire. Trois parcours, compris entre 28 et 83 km, figurent au menu. Ce qui change en revanche par rapport à l'été passé, ce sont les conditions. Alors que la pluie avait rendu le terrain très gras et très glissant en 2021, la situation est diamétralement opposée cette année, mais le travail du président du comité d'organisation, Clément Merdeau, et de son équipe reste plus ou moins le même.
C'est surtout pour le travail avant-course sur le terrain, ça c'est clair que ça simplifie la tâche. Par contre, les travaux restent les mêmes, donc fauchage, balisage, après tout ce qui est sur la place de fête reste le même travail.
On parle de marathon, hein, donc de VTT de longue distance. Comment ça se passe pour préparer justement le terrain sur de telles distances ?
Alors c'est vrai que là on rencontre quand même quelques contraintes, vu qu'on passe sur le terrain de 250 propriétaires terriens. On a fait une demande à chacun pour avoir le droit de passer dessus. Et en plus, nous avons les contraintes administratives par rapport au canton et communes.
Clément Merdeau au micro de Julien Traxel. Cette année, les conditions sont donc idéales pour la deuxième édition du Summer Bike Marathon. Une édition prévue samedi et dimanche à Châteaudet. Philippe, on sait donc où on se trouvera ce week-end. Hein.
À Châteaudet.
Exactement.
Merci beaucoup Xavier. On retrouve le journal tout à l'heure à 8h.